Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les syndicats de l'éducation et le logiciel libre. Alors le sujet a été enregistré il y a quelques jours car les deux personnes invitées travaillent aujourd'hui lors de la diffusion de l'émission car c'est la rentrée des classes comme vous le savez. Donc nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve après.
Bonjour, je m'appelle Étienne Gonu, je suis en charge des affaires publiques pour l'April. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jean-François Clerc du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, SNES-FSU, et Renaud Colombel du Syndicat Général de l'Éducation Nationale, SGEN-CFDT, pour échanger sur la question du logiciel libre dans l'éducation nationale, avec la grille de lecture qui est la leur, celle des syndicats. Nous sommes le mardi 25 août et une fois n'est pas coutume, nous enregistrons notre sujet en avance pour la simple raison qu'au moment de la diffusion de l'émission, qui sera elle en direct le mardi 1er septembre, ce sera la rentrée des classes et que nos invités seront à ce titre bien occupés. Et Jean-François me corrige, c'est de l'enseignement secondaire, pas supérieur. Excusez-moi. Jean-François Clerc, du coup, Renaud Colombel, bonjour. Je vais préciser donc aussi, bien sûr, que, étant donné le contexte sanitaire en Île-de-France, nous enregistrons l'émission non pas en studio, dans le studio de la Radio Cause Commune, mais à distance avec le logiciel libre Mumble, comme nous le faisions à la fin de la saison précédente. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, vous-même et vos structures syndicales, Jean-François Clerc du SNES-FSU, ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît.
Oui, bonjour. Le SNES-FSU, c'est le syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, donc SNES. Et FSU, c'est la Fédération syndicale unitaire qui regroupe quarantaine d'organisations syndicales, essentiellement sur la fonction publique, mais originellement, essentiellement aussi autour de l'enseignement. Donc on a le SNES-UP, le primaire, le SNES-UP pour le supérieur, etc., etc. Le secondaire, donc, c'est de la sixième à la terminale, avec quand même aussi de temps en temps les BTS et les classes préparatoires. Et je ne sais pas ce que vous voudriez bien que je dise d'autre pour présenter comme ça juste le syndicat. Voilà.
Et toi, du coup, quel est tu travailles, je ne sais pas si tu es à temps plein à ton syndicat, quel est ton mandat dans ce syndicat?
Alors oui, j'ai oublié de me présenter effectivement. Je pensais trop à mon organisation syndicale. Donc moi, je suis professeur de mathématiques. J'ai toute petite décharge de 2 heures pour m'occuper du numérique. Donc je suis responsable de tout ce qui est numérique au sein du SNES FSU. Professeur de mathématiques dans un collège REP Plus à Paris. Et on a une équipe numérique qui travaille à l'intérieur du SNES. De la même manière qu'il y a de temps en temps des regroupements des différents responsables ou interlocuteurs privilégiés des autres organisations syndicales à l'intérieur de la FSU. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler pour la FSU sur l'élaboration d'une demande de service public numérique pour l'éducation.
Ok, je précise des charges, c'est en gros, tu pourras me corriger, mais sur ton temps de travail, on a le droit de travailler un certain nombre d'heures, un certain nombre d'heures de temps de travail peuvent être allouées au travail au syndicat.
Absolument, c'est l'équivalent de ce que le privé appelle de la délégation syndicale.
Parfait, donc Renaud Colombel, bonjour à nouveau, est-ce que toi aussi du coup tu peux te présenter ainsi que ta structure s'il te plaît?
Alors. Bonjour à tous et toutes, auditeurs, auditrices. Je suis Renaud de Colombel, je suis militant technique pour la Fédération des SGEN CFDT. Donc les SGEN, c'est les syndicats généraux de l'éducation nationale. C'est des syndicats qui représentent toutes les catégories de personnel, des titulaires comme des non-titulaires, des enseignants, des personnels techniques et administratifs, les personnels de direction, les secrétaires, etc. Le SGEN représente les personnels de plusieurs ministères, ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais aussi l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation, la partie enseignement du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Voilà, et puis mon rôle à moi dans cette fédération syndicale, c'est d'être un peu le personne ressource numérique qu'on trouve dans les établissements pour la fédération, c'est-à-dire de fournir à mes camarades les moyens de travailler avec les outils numériques.
Et toi, du coup, ta décharge, elle est à 100, tu es déchargé à 100%, si je me dis pas, si je me trompe pas.
Voilà. Alors moi, je suis plus en classe. Moi, j'étais professeur des écoles et je ne suis plus en classe pour le moment puisque je travaille à 80% pour la fédération au niveau national et 20% pour le syndicat SGEN-CFDT Alsace.
Ok, merci de ces précisions. Et c'est intéressant de voir justement qu'il y a différents profils, différentes manières d'être aussi, de participer au sein d'une structure syndicale. Et puis du coup, ça vous donne aussi des vos prismes de lecture peuvent aussi varier par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Au-delà peut-être des positionnements politiques de vos syndicats respectifs. Je vais préciser d'ailleurs que vos deux structures syndicales sont membres de l'April, ce qui du point de vue de l'April, dans la mission de promotion et défense du logiciel libre, voilà, la mission qu'elle se donne, et c'est quelque chose de très intéressant parce que de la part de l'impact politique que peuvent avoir les syndicats, et de la capacité de sensibilisation aussi des professions que vous représentez. Et en plus, voilà, dans l'éducation nationale, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir un poids du poids pour promouvoir et défendre le logiciel libre. Et du coup, avant qu'on aille au cœur de notre vaste sujet du jour, l'éducation nationale et le logiciel libre, et possible qu'on fasse d'autres itérations sur ce sujet, sans doute même au sein de cette saison 4 de Libre à vous, je pense qu'il serait intéressant pour que vous nous précisiez votre grille de lecture, justement, le sens de votre action, et c'est pour ça que j'aimerais vous poser une question d'apparence toute simple, c'est quoi un syndicat ? Renaud, puisque si tu veux continuer ta prise de parole.
Absolument. Alors, un syndicat, c'est une. Alors, si on regarde une définition comme celle qui est sur Wikipédia, par exemple, on peut résumer organisation de défense des intérêts des salariés. Alors, les salariés, je l'ai dit, pour nous, c'est toutes les catégories de salariés. Les intérêts des personnels, c'est le suivi de carrière, le salaire, l'avancement, les conditions de travail. Le recrutement, les horaires, ce qui est attendu par l'employeur. Comment on procède entre guillemets pour défendre tous ces personnels ? Tout simplement en écoutant les personnels, en les rencontrant à différents niveaux, dans les établissements, dans des réunions, dans des heures d'information, etc. Sur les réseaux sociaux, dans nos colloques, dans nos conseils syndicaux, on construit ensemble des propositions, un peu un programme politique, si on peut dire, après on va présenter et essayer de faire adopter par l'administration dans différentes instances.
Super, très clair, merci. Jean-François, quelle est toi ta lecture de cette question d'apparence simple ?
J'ai pas grand chose de différent à dire, c'est effectivement un syndicat, c'est destiné essentiellement à défendre les salariés ou les personnes qui travaillent. On pourrait parler plutôt de travailleurs dans un sens un peu plus général. Je préciserai juste un truc par rapport à ce que Renaud a dit, c'est que quand il parlait de la façon dont on construisait une espèce de politique, en fait, on se dote à ce moment-là, à l'intérieur d'une organisation syndicale, de ce que l'on appelle des mandats. Et par exemple, là, moi, je suis tout à fait mandaté pour parler au nom du SNES-FSU. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de la FSU. Par contre, je peux présenter des mandats de la FSU, puisqu'on est adhérent à la FSU. Donc, il y a des structures à l'intérieur d'une organisation syndicale, mais en gros, le syndicat, il est fait par ses syndiqués. C'est-à-dire que ce sont les adhérents qui vont déterminer, à travers leur expression, leur action, les élections internes qu'il va y avoir dans l'organisation syndicale au moment des congrès. Donc ce sont les adhérents qui vont déterminer quelle est l'orientation que va devoir suivre l'organisation syndicale.
Absolument, c'est lors des congrès, c'est un peu comme quand on réunit le Parlement, entre guillemets. Alors les congrès, c'est pas tout le temps, c'est des événements exceptionnels qui se tiennent à peu près tous les 4 ans chez nous, que les adhérents font entendre leur voix et pèsent par le vote, puisque Nous, dans CFDT, le D, c'est démocratique, donc à tous les niveaux de nos instances, comme disait Jean-François, on procède on prend des décisions sur des bases démocratiques, c'est-à-dire du vote, des mandats, en fonction du poids des uns et des autres.
Merci de ces précisions, et c'est vrai que cette notion de mandat est très importante. Et puis, je me permets un petit parallèle je me suis déjà fait. Par ailleurs, on voit aussi peut-être, d'une autre manière, un parallèle qu'on peut faire par rapport à une association comme l'APRIL. Alors, l'APRIL n'est pas du tout un syndicat, mais elle réunit non pas du coup des travailleurs et travailleuses, mais plutôt des personnes qui vont partager une certaine conception de l'intérêt général, une éthique, l'éthique du logiciel libre, et qui vont se réunir et respecter au sein d'une structure pour défendre ce qui leur semble être leur éthique, tout simement. Puisqu'on commence justement à parler de politique, de défense finalement de certaines convictions, comme je disais, vos structures sont membres, ont adhéré à l'APRIL, et donc ça montre déjà, ne serait-ce que par cette action, un engagement vers le logiciel libre. J'ai dit pour l'APRIL, c'est quelque chose de très positif. On est très heureux, que ce genre de personnes morales adhèrent, soient membres de notre association. À l'inverse, pourquoi c'est important pour des syndicats, notamment des syndicats de l'enseignement secondaire, d'adhérer à une association comme l'APRIL?
Jean-François, c'est pour toi cette question, parce que on parle du secondaire. Moi, ça sera une réponse un peu plus large.
c'est très très simple, hein. C'est tout simplement parce que ça fait partie de nos convictions fondamentales. Depuis des années, nous avons comme mandat justement la défense du logiciel libre et, dans la mesure du possible, l'utilisation prioritaire de tout ce qui est logiciel libre, parce que c'est aussi une philosophie, une façon de penser le monde informatique. Ça nous a semblé tout à fait naturel de rejoindre l'APRIL en y adhérant.
Alors, si je peux me permettre de resituer un petit peu, enfin de rappeler certains principes, peut-être pour les auditeurs qui découvriront le logiciel libre ou le logiciel libre dans l'éducation nationale avec cette émission, par rapport aux quatre libertés offertes par le logiciel, par la licence d'utilisation du logiciel libre, qui sont d'utiliser, quel que soit qui qu'on soit, où qu'on soit, d'étudier le code, voir comment fonctionne le logiciel, redistribuer les logiciels, avoir le droit de donner des copies de ce logiciel à qui on veut, et puis de modifier et de diffuser ces modifications. Nos valeurs, les valeurs de la CFDT, les cinq valeurs de la CFDT sont quasiment parallèles, on va dire, ou se recoupent largement avec les valeurs du logiciel libre. Alors, parmi les valeurs CFDT, l'émancipation, avoir les outils pour être maître de sa vie, la démocratie, hein, être acteur, participer aux prises de décision, l'indépendance de tout État, de tout parti, de toute religion. L'indépendance est aussi un des bénéfices de l'utilisation des logiciels libres. L'autonomie, ne pas être tributaire de ressources externes, est permise par le modèle économique du logiciel libre. Et la solidarité, l'entraide, la défense des droits de tous et la lutte contre les discriminations sont assurées largement. Hein, je vous fais pas le détail des croisements qu'on peut avoir entre les quatre libertés offertes par le logiciel libre et les valeurs de la CFDT, ça paraît assez évident, mais c'est pour nous la base de notre adhésion au logiciel libre et donc de notre soutien à l'APRIL qui promeut et défend les logiciels libres au niveau national.
Super, et merci pour ce. C'est vrai que je parlais d'éthique du logiciel libre, tu l'as parfaitement finalement défini à ce à quoi ça correspondait. Merci Renaud de Colombel. Et du coup, si je comprends ce que vous me dites, c'est du coup l'adhésion n'a pas fait l'objet de résistance particulière, elle a coulé elle est arrivée comme une évidence au sein de vos structures. Vous avez dû batailler pour l'obtenir, c'est que c'est pas forcément toujours évident.
Dans le cas de mon organisation syndicale, ça n'entrait pas directement dans le champ des partenariats qu'on pouvait établir en général. Ceci dit, il n'y a pas eu de résistance particulière. Renaud a très très bien expliqué les différents, les cinq points fondamentaux autour du logiciel libre. C'est comme s'il s'agit de valeurs qu'on défend aussi, c'est venu naturellement. Voilà.
Alors personnellement, la petite anecdote de l'émission, c'est que moi j'ai rejoint un syndicat, le SGEN, un CFDT, il y a 20 ans, parce que il y a plus de 20 ans, ce syndicat avait lancé un appel à soutenir le logiciel libre. Et il m'avait envoyé ça dans un document Word. Donc je suis allé les trouver et j'aurais proposé de leur apporter mon aide pour se mettre en conformité avec leurs idées. Et on a adhéré à l'April, ça fait 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Donc le chemin est parfois long, hein. Je suis pas le seul, il y a plein de monde dans nos structures qui sont convaincus des intérêts des logiciels libres et de la nécessité de les défendre, de les faire avancer. Le chemin est long, mais la voie est libre, comme dirait Framasoft.
Belle citation. Et tu soulèves quelque chose, je te donne la parole juste après, Jean-François. Tu soulèves quelque chose que je pense qui est important et au-delà de notre sujet de l'éducation nationale, au-delà de la question des syndicats, dans ton attitude, là, tu as vu quelque chose, une incohérence, et c'est quelque chose qu'on peut voir au quotidien avec les administrations, dans une entreprise, qu'importe. Il faut pas tout de suite arriver dans l'idée c'est des nuls, je vais leur rentrer dedans, mais au contraire y voir des opportunités de proposer autre chose et de montrer autre chose et de on peut pointer une incohérence et c'est bien de le faire et mais on peut le faire de manière voilà constructive comme tu as su le faire et puis on voit du coup à quel bénéfice ça a pu produire. Jean-François Clair, tu souhaitais ajouter quelque chose?
Non, je voulais juste aller un peu dans le sens de ce que disait Renaud, comment dire, faire preuve aussi d'une forme de pragmatisme, là c'est toi qui viens de le signaler, à savoir que il y a aussi des mauvais réflexes, des habitudes, et il y a tout un apprentissage en fait à faire, parce que finalement le logiciel libre n'est pas toujours formaté, entre guillemets, hein, pour être aussi facilement utilisable que peut l'être celui qui est vendu de manière... tout à fait commercial et propriétaire, parce qu'il y a aussi ce truc-là, le côté propriétaire. Et moi, je vois bien, hein, on est à l'April, on utilise dans au SNES énormément d'outils qui viennent du monde du libre. Hein, l'ensemble de notre infrastructure informatique est basé sur des solutions libres. Et à côté de ça, on a quand même toujours des collègues qui préfèrent sérieusement utiliser un document Word plutôt que d'utiliser un document, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en Apache.
Open Document.
ODT, voilà, c'est ça.
Oui, c'est très important en tant que militant, non pas syndical, mais militant du logiciel libre. Je fais aussi partie d'un LUG. Et on
est un groupe d'utilisatrices du logiciel libre, je me permets juste de le préciser.
Merci Étienne. Donc un groupe d'utilisateurs de logiciels libres, quand on agit dans un groupe comme ça et qu'on va à la rencontre du public, c'est pareil que quand on essaye d'expliquer ça à nos collègues, ça ne va pas de soi, mais expliquer, montrer les avantages, essayer d'emporter l'adhésion est pour moi, de mon expérience, la seule démarche qui produise des fruits à long terme.
Très juste. Jean-François, tu souhaitais rajouter ?
Oui, j'aurais presque fait un parallèle finalement avec la protection des données et le RGPD. C'est-à-dire que il y a eu une idée, une grande idée, et puis derrière, il faut arriver à la mettre en place. Et pour la mettre en place, ça nécessite énormément de pédagogie.
Et on sait, de toute façon, surtout, voilà, vos structures ne sont pas des petites structures, et on sait, voilà, c'est toute la logique d'accompagnement au changement, et dans des démarches, voilà, pragmatiques aussi, en partant des besoins des utilisateurs et des utilisatrices, et toujours, voilà, aussi par montrer l'exemple. Et ça, c'est une chose importante, et par ailleurs, vous avez répondu notamment à une question que je me posais, qui est au sein de structures, qui défendent clairement, qui affichent, les valeurs et l'éthique du logiciel libre, quel est justement l'état d'utilisation, et ça c'est vraiment bon, visiblement ça va, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, on est plutôt ça va dans le bon sens, quoi. Je veux dire, ça traduit aussi en acte l'engagement à l'April.
Oui, comme dans le cas de Jean-François et du SNES, hein, enfin de la FSU, les infrastructures sont majoritairement sur des logiciels libres, serveurs, applications web, etc. Et le matériel, par exemple, qu'on confie aux militants qui travaillent beaucoup avec nous, est laissé, on va dire, on leur laisse le choix du système d'exploitation. Parce que certaines personnes ne veulent pas prendre le temps de découvrir de nouveaux usages, et on se dit qu'on va pas les forcer et les braquer, mais plutôt leur montrer que ben, sur l'ordinateur qui est équipé de Linux, ça marche peut-être des fois mieux que sur l'ordinateur qui est équipé de Windows, que LibreOffice, pour ce qu'on en fait, fonctionne tout aussi bien, voire mieux, que la suite Microsoft Office, etc. Et alors, chez nous, on a à peu près 47% d'ordinateurs personnels sous Windows et 42% sous Linux, par exemple, plus des Mac pour les services de communication qui font de la PAO, etc.
Merci de ces précisions. On va avancer, parce qu'en fait, on n'a pas encore entré dans le vif du sujet. Avant, Jean-François, tu souhaitais apporter une précision?
Oui, juste un petit truc. Quand on organise nos congrès, donc pour tous les congressistes ont accès à une salle informatique qui est installée, et tous les postes sont sous Linux à ce moment-là. Les Super. Seuls postes qui peuvent être sous un autre système d'exploitation, ce sont ceux qui appartiennent au syndicat.
Et c'est vrai que du coup, en plus au sein de vos structures, bah, bon, les membres de structures syndicales sont plutôt des gens qui ont un engagement politique et qui sont du moins plus susceptibles hein, bah, de passer à GNU Linux et d'accepter ce pas supplémentaire. Et j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on fasse notre pause musicale et qu'on rentre dans le vif du sujet de l'éducation. Puisque vous êtes voilà, des structures politiques, est-ce que vous avez le sentiment que les enjeux relatifs aux technologies numériques sont perçus justement comme des questions politiques, notamment en termes de conditions de travail, hein, ce qui est un peu le sel de vos structures, ou est-ce que, entre guillemets, ça reste perçu comme juste un sujet technique qui ne concernerait que les geeks? Là, je parle plutôt, j'en appelle plus à votre sentiment que quelque chose d'empirique, mais quel est votre sentiment par rapport à ça?
Ben, je dirais, certains collègues sont sensibilisés à ces enjeux-là et voient la question comme politique, philosophique, etc. Et ceux-là, soit ils arrivent vers nous, ils ont déjà franchi le pas de s'équiper en logiciel libre, soit c'est l'occasion, parce que voilà, je travaille dans un service qui met les outils à disposition et qui peut faciliter la transition vers les logiciels libres. Et puis d'autres le voient un peu comme une question technique. Je veux dire, c'est plutôt ceux-là qui se disent que voilà, ils vont se concentrer sur leur mandat politique et ils n'ont pas de temps peut-être à dépenser à apprendre de nouveaux usages.
Alors, en ce qui nous concerne, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant que je m'occupe du numérique au sein du SNES, et ça a été l'occasion pour moi de lancer une dynamique à l'intérieur du SNES, justement pour en faire véritablement une question politique. Parce que, en fait, bon, c'est assez paradoxal, hein. On s'aperçoit qu'on a des collègues qui vont défendre à tout craint, on va dire, l'informatique libre, et puis d'un autre côté, ils ne vont pas hésiter à continuer de travailler avec un logiciel de Microsoft pour publier leurs textes, pour faire leur présentation. On est avec ce paradoxe que pointait Renaud, à savoir que, bah oui, parfois il y a des collègues qui sont plus sur leur mandat politique hors numérique et qui considèrent que c'est, ou informatique, et qui considèrent que ça, c'est plus des questions techniques. Mais une chose est sûre, c'est que actuellement, l'évolution de la société fait que les gens se posent de plus en plus de questions et que les collègues sont de plus en plus sensibilisés à toutes ces questions de logiciels libres et de principes qui se retrouvent derrière.
Tout à l'heure, je parlais de prendre des décisions démocratiques. Le soutien au logiciel libre par notre organisation a fait l'objet de débats et de prises de position officielles. C'est-à-dire que même si tout le monde dans la fédération ne travaille pas avec des logiciels libres, tout le monde a été, ou la majorité d'entre nous, ont pris la décision de dire que notre organisation soutenait les logiciels libres.
Ça, c'est, je trouve, très important. Merci de ces précisions. Je vous propose, comme je vous disais, de faire une pause musicale. Nous allons écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff. On se retrouve juste après. On vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons donc d'écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Alors nous échangeons avec Jean-François Claire du SNES FSU et Renaud de Colombelle de la SGEN CFDT, deux syndicats de l'enseignement. Et nous discutions, voilà, alors déjà de leur pratique, enfin, au sein de ces structures, de leur pratique syndicale par rapport au logiciel libre. Et là, nous allons rentrer dans le vif, entre guillemets, de notre sujet, qui est la question de l'éducation, dans l'éducation nationale, du recours au logiciel libre, des enjeux qui y sont attachés. Et je pense que, je pense que tu es au courant qu'il y a eu une période assez particulière cette année, du fait de la situation sanitaire à cause du coronavirus. Donc la période du confinement et ce que cette période de confinement a nécessité en termes d'organisation, ou même d'imagination de la part du personnel enseignant. Donc de mon humble prisme de lecture, j'ai comme le sentiment que l'importance du travail fourni par ces personnes a été largement sous-estimée. Et donc cette période de confinement a soulevé des enjeux importants par rapport à l'usage des technologies numériques dans l'enseignement. Et particulièrement parce que de fait, elles étaient indispensables pour assurer ce qui a été convenu d'appeler la continuité pédagogique. Hein. Donc ça va passer par les courriels, les outils de visioconférence, notamment, voilà, on a beaucoup entendu parler de Zoom, il faut savoir qu'il y a eu un logiciel BigBlueButton qui existait en parallèle, les outils de travail contributifs plus poussés, enfin voilà, il y a eu toutes sortes d'outils disponibles. Donc on pourrait bien sûr faire un sujet entier là-dessus, voire plusieurs même. Moi déjà, peut-être dans un premier temps, ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir votre analyse générale des enseignements politiques qu'on a pu tirer de cette période, et peut-être éventuellement un point, un enjeu en particulier qui vous a paru particulièrement marquant, emblématique de cette période. Je ne sais pas qui souhaite... Jean-François Clair.
Comment dire, la leçon principale, c'est qu'on a eu un ministère qui a été en dessous de tout, et un ministre qui a surtout joué de la communication et a été complètement débordé. Bon, faut dire que depuis des années, avec les suppressions de postes massives dans l'éducation nationale, que ce soit chez les enseignants, que ce soit chez les personnels techniques et administratifs, ils ont de plus en plus de mal quand même à arriver à assurer un certain nombre de choses. Mais là, on a quand même touché le fond. Il a fallu attendre près d'un mois avant que le ministère ne propose une suite complète de logiciels libres, non propriétaires, et surtout respectueux du RGPD. On a eu des discours particulièrement contradictoires de la part de l'administration, où en gros, des fois, ils encourageaient l'utilisation de logiciels dont on savait que toutes les données personnelles étaient pillées pour être envoyées et analysées aux États-Unis. Et où en gros le discours de l'administration s'est écouté. Pour l'instant, vous vous débrouillez, puis après, on verra, on se posera les questions autrement. Donc là, c'est quand même assez catastrophique. Ça a montré que l'éducation nationale n'était pas prête du tout pour utiliser intelligemment le numérique. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir ce que va donner la consultation qu'a lancée le ministère pour ses états généraux du numérique de l'automne.
Oui, on reviendra dessus.
Voilà, on en reparlera après. Et surtout, les collègues se sont retrouvés particulièrement seuls. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'en matière de vraie formation aux usages du numérique, on en a quand même très peu. On a surtout des formations qui consistent à apprendre à essayer de faire des choses... ou utiliser des logiciels. Enfin, moi, je me souviens d'une formation à savoir utiliser une messagerie Gmail proposée par un plan académique de formation. C'est pas de ça dont les collègues ont besoin.
Je précise donc, que Gmail, c'est la solution courriel proposée par Google.
Voilà, c'est ça. On s'est retrouvé quand même particulièrement seul, créatif. On s'est beaucoup entraidé, mais au final, c'est pas nous qui avons eu la prime, c'est les chefs d'établissement.
Voilà, alors je partage à peu près le constat général que Jean-François a décrit, mais en plus positif, parce que il y a dans l'éducation nationale beaucoup d'agents qui font tout leur possible, et la fourniture justement de ces apps éducation FR, des logiciels libres mis à disposition dans les académies, est quand même intervenu, certes trop tard, mais il est intervenu. Il faut bien savoir que aussi l'éducation nationale est une machine qui fonctionne à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand la direction pour le numérique éducatif, la DNE, partie du ministère qui s'occupe du numérique éducatif, propose une solution, c'est pas elle qui la déploie pour les utilisateurs finaux. C'est après retransmis, les protocoles d'installation, de mise en route, etc. sont retransmis dans toutes les académies. Et les académies, avec leurs propres moyens, essaient de suivre et de mettre en place ce qui était proposé par le ministère. Il est vrai que nous n'étions pas prêts à tous les niveaux à affronter cette crise du Covid et du confinement. Il y a beaucoup de choses à dire sur la formation des personnels, peut-être aussi sur l'enseignement. C'est-à-dire ce qu'on a fait passer comme connaissances et et comment dire capacité à utiliser le numérique aux élèves. Il y a évidemment un discours où à la fois on valorise le logiciel libre entre guillemets. Enfin, je parle de l'État. L'État est souvent schizophrène. Hein. On fait un référentiel des logiciels libres pour les services de l'État, et puis dans le même temps, effectivement, on utilise des logiciels propriétaires. Et surtout, moi, ce que je regrette, c'est le manque de vision stratégique de l'État. S'il y a bien un organisme, un lieu où on doit déployer une vision stratégique sur le long terme, volontariste, c'est-à-dire en mettant des moyens, c'est au niveau de l'État.
Oui, clairement, et c'est pour ça aussi qu'on appelle... Jean-François, oui, je vais te donner la parole tout de suite. Je voulais juste souligner que c'est aussi ce qu'on défend, on l'a défendu, il y a eu le projet de loi de l'école pour la confiance, où on défendait, sur le cas du logiciel libre, une priorité au logiciel libre, et en fait, on ne défend que ça, c'est-à-dire une vraie stratégie, une vraie politique publique qui pense en profondeur les enjeux relatifs aux technologies numériques, et notamment celle de la liberté. En plus, là, on parle pas de n'importe qui, mais celle des élèves, pour leur apprendre à avoir un rapport, on va dire, émancipé par rapport aux technologies qui prennent une place énorme dans notre société. Et je pense que ce point est très important. Jean-François Clerc, tu avais une précision que tu souhaitais apporter.
Oui, juste pour aller dans le sens de ce que disait Renaud, alors c'est vrai que mon discours était quand même particulièrement négatif. Il y a énormément d'agents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant la période du confinement. J'ai été très très présent sur les réseaux sociaux et j'ai réussi à faire passer au nom du SNES un certain nombre de collègues, éventuellement des collègues non adhérents d'ailleurs, simplement des collègues qui regardaient sur les réseaux sociaux des choses de ce genre-là, beaucoup de choses, beaucoup d'aides qu'on n'arrivait pas à obtenir par ailleurs, mais ces aides-là, en fait, j'ai souvent réussi à les obtenir par des collègues qui parfois travaillaient dans des DAN de telle académie ou de telle autre académie. C'était DAN, surtout au niveau des... Direction académique du numérique pour l'éducation. C'est donc les cellules académiques qui s'occupent du numérique, où il y a donc des collègues hein, qui souvent sont parfois détachés, parfois ont un poste complet d'informaticien, etc. Mais donc c'est en particulier grâce à ces collègues-là qu'on a réussi à faire circuler un certain nombre d'informations et finalement à se débrouiller. On a créé nos propres réseaux. Juste une autre chose à propos de l'enseignement, c'est vrai que c'est assez catastrophique de voir la façon dont on peut aborder la chose informatique au sein du secondaire. Moi, je ne vais parler que du secondaire. On s'attendait tous à ce qu'il y ait un confinement. On s'attendait à avoir un certain nombre de consignes ministérielles. Là, il ne s'agissait pas de passer par différentes étapes, etc. Il s'agissait de la parole du ministre, tout simplement. Hein, mais je sais que près de 15 jours avant qu'on se retrouve confinés, j'avais commencé à faire travailler mes élèves spécifiquement sur des procédures d'enregistrement de fichiers, de transfert de fichiers par messagerie, par l'environnement numérique de travail de l'établissement, etc., etc. J'ai fait ça sur mes propres heures de cours. On n'a eu aucune consigne là-dessus. Or, si on avait eu ne serait-ce qu'une une petite consigne du style « Assurez-vous que les élèves savent correctement envoyer des fichiers, savent correctement lire ou connaissent les extensions de fichiers pour s'assurer qu'ils ont bien le logiciel qui leur permet de le faire », on aurait eu quand même beaucoup moins de déconvenus et sans doute qu'on aurait perdu beaucoup moins d'élèves.
Dans ce contexte particulier hein, qui était le nôtre, j'ai des adhérents personnels de direction qui m'ont rapporté que ils se sont rendus compte à l'occasion du confinement que certains élèves ne savaient pas se servir de leurs environnements numériques de travail, hein, ne savaient pas se connecter, ne savaient pas envoyer un mail, etc. Donc il y a y a de la formation à faire, on va dire, à tous les étages, et il faut mettre le paquet.
Parfait. Oui, on peut que soutenir cette prise de position. Et pour prendre un ton, pour revenir à une chose positive peut-être qui a été évoquée, parler de l'engagement aussi de certains personnels et que c'est aussi bah, vraiment les membres de l'éducation nationale, les travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale qui font l'éducation nationale, en fait, ce qu'est cette administration, et qu'on sait qu'il y a bah, aussi des libristes, des gens convaincus qui œuvrent pour une meilleure prise en compte du logiciel libre. Jean-François Clair, tu mentionnais voilà que une plateforme avec des logiciels libres qui permettent justement aux enseignants de travailler dans cette période de confinement avait été mis à disposition. Apps, alors on mettra le lien, c'est appsnumérique.gouv, quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'est vraiment aussi bah, des libristes au sein de l'administration qui ont mis ça en place, qui ont poussé pour que ce soit mis en ligne. Bon, et vu les besoins, je pense qu'ils n'ont pas eu à beaucoup insister pour que ce soit fait, et qui ont aussi une vraie aussi réussite, mais là, du coup, bah, effectivement, qui part de la base. Et d'ailleurs, nous avions reçu, et je vous invite les personnes qui s'intéressent à retrouver notre podcast, c'était le 65e émission de Libre à vous du 5 mai 2020, et nous avions reçu Luc Bourdeau, qui est donc responsable du pôle national de compétences logicielles libres, le pôle EOL, et qui était chargé du pilotage et du développement et de l'intégration des composants libres au sein de l'équipe de cette plateforme Apps. Donc a2ps.education.fr et qui est en soi voilà une belle réussite, mais justement de libristes au sein de l'administration. Et du coup, ce qui m'amène à m'interroger, à vous interroger plutôt, dans votre perspective de syndicale, on sait ce qui est important en termes de combat, enfin de lutte syndicale notamment, c'est la question de rapport de force pour faire pencher les arbitrages décisionnels, les arbitrages politiques d'un côté ou de l'autre. Quelle est la place, qu'est-ce que en fait tout ça dit c'est pas du confinement, la réussite de ce site, de la place du libre et des libristes au sein de l'éducation nationale, de leur poids possible dans les prises de décision. Est-ce que ça a évolué positivement et à l'inverse, peut-être de la place que peuvent occuper certaines entreprises comme Google et Microsoft pour ne mentionner qu'elles. Voilà, quelle est votre lecture du rapport de force sur ces questions? Jean-François,
alors, pour moi,
Renaud de Colombelle.
Pardon, excusez-moi. Pour moi, la cause du logiciel libre, c'est parmi les personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire à un niveau individuel, on trouve beaucoup de gens qui sont impliqués dans le logiciel libre. Maintenant, le rapport de force, il faut savoir que les syndicats, outre les actions traditionnel hérité d'une action on va dire de longue date du mouvement ouvrier etc. Outre ces actions de grève, de blocage, etc. Nous, la CFDT et les syndicats de la CFDT se positionnent plutôt sur un syndicalisme de proposition. C'est-à-dire un peu comme on fait pour faire progresser le logiciel libre à des niveaux associatifs ou individuels, d'être une force de proposition et de montrer que ça marche, ça pourrait mieux marcher, etc. Mais il faut savoir que malgré tout, si on n'est pas bon en présentation, en négociation, etc., on ne peut pas forcer le ministère à faire quoi que ce soit. Les syndicats ont un rôle entre guillemets consultatif. Alors on a des voix dans certaines commission paritaire, de moins en moins d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est surtout par nos propositions et une démarche constructive qu'on arrive à amener l'administration à évoluer sur certaines pratiques.
Jean-François, je pense que ta position ne sera pas exactement la même peut-être.
Bon, elle va pas être très 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 éloignée parce que effectivement, l'enjeu, c'est d'arriver à être une vraie force de proposition. D'un autre côté, on se confronte quand même à des grosses entreprises qui ont des modes de fonctionnement, alors qui relèvent pas complètement du lobbyisme au sens où la loi le définit. Mais on voit par exemple que la DNE a été quand même à un moment donné direction du numérique pour l'éducation éducative. Elle a été quand même pas mal noyautée par des gens qui ont fait leurs armes d'informaticiens chez Google et qui finalement sont venus en vendant des idées Google. On parle souvent de Microsoft. Mais Google est tout aussi inquiétant. Et d'ailleurs, l'ancien directeur de la DNE est parti pantoufler chez Amazon. Donc, c'est assez difficile. Par contre, effectivement, au niveau individuel, il y a une progression de la prise de conscience des collègues. Et là, c'est des collègues, toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler. Hein. Il y a une vraie prise de conscience des collègues sur la nécessité de pouvoir utiliser des logiciels libres et de ne pas se retrouver complètement enfermé, prisonnier finalement de solutions qui privent de liberté.
Bien. Je vous propose, tu mentionnais, je crois que c'est Jean-François, tu parlais des états généraux du numérique, et je pense qu'on peut arriver justement. Les états généraux du numérique, ça a été initié par le gouvernement pour répondre aux enjeux soulevés, ou plutôt de ce qu'ils ont considéré être les enjeux soulevés par la période de confinement. Donc les états généraux du numérique pour l'éducation. Alors, avec des rencontres nationales de mémoire qui sont prévues début novembre et qui sont censées être le point d'orgue de ces états généraux. Et en amont de ça, donc, il y a des rencontres territoriales, si j'ai bien compris. Il y a une consultation en ligne, mais bon, ça, on sait que maintenant, ils aiment beaucoup faire des consultations en ligne. Là, autour de différents thèmes proposés, on mettra le lien, si ça vous intéresse, sur april.org. Donc voilà, on sait pas. Donc voilà, donc il y a cette plateforme, on va dire, qui a pour but de générer des propositions. On verra s'ils retiendront ou ils retiendront uniquement celles qui répondent à ce qu'ils avaient prévu de faire. Je me positionne peut-être en disant cela. Quelle est votre lecture de ces états généraux du numérique? Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous en attendez quelque chose? Je sais que Jean-François, je te passerai la parole, parce que j'allais dire que voilà, j'ai vu passer un communiqué du SNES-FSU qui disait notamment qu'il était à craindre que seul le numérique et ses possibilités d'ouvrir les portes des établissements à toutes les officines de l'EdTech, donc des technologies de l'éducation. On sait qu'il y a un gros marché là-dessus, enfin, qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, c'est crainte que seules les officines de l'EdTech ne soient reconnues. Donc, voilà, plutôt un regard critique, on va dire, et méfiant de ce que j'en entends. Jean-François Clerc, ou SNES-FSU, qu'est-ce qu'on attend de ces états généraux du numérique?
Malheureusement, on n'en attend pas grand-chose, hein, pour différentes raisons. Hein. La première, c'est que c'est pas uniquement cette histoire de confinement et de Covid qui sont à l'origine de ces états généraux du numérique. Hein. Il y a en ce moment toute une stratégie de l'État pour en fait numériser l'ensemble des services de l'État et les numériser totalement. Donc ça s'inscrit aussi dans cette lignée-là, hein, parce qu'il n'y a pas que les classes virtuelles qui sont concernées. Ensuite, on a vu, ça remonte. On va remonter jusqu'à la commission Tello. Alors la commission Tello, c'est quand Chirac était président de la République et que il y avait eu de grosses grèves d'éducation nationale parce qu'il y avait un grand malaise enseignant. Donc il avait créé cette commission pour faire disparaître le malaise enseignant. Ils avaient associé ça à des possibilités, des forums en ligne, des choses de ce genre-là. Et en fait, on retrouve maintenant systématiquement tous ces outils où n'importe qui peut venir dire n'importe quoi sans être identifié. Donc, éventuellement, on peut même mettre parfois des robots qui vont raconter 10 fois la même chose. Et après, c'est dépouillé par des logiciels de traitement statistique des textes. Et globalement, il n'y a pas véritablement d'être humain derrière. En plus, quand on regarde les questions qui sont posées dans le cas du questionnaire qui accompagne la préparation de ces états généraux du numérique, bon, on s'aperçoit que les questions sont quand même relativement orientées. Alors, par contre, on peut espérer que les contributions que vont y faire les personnes, les groupes, alors que ce soit des groupes de pression, que ce soit des groupes constitués qui ont une idée à exprimer, etc., ça puisse apporter quelque chose au débat, sous réserve que quelqu'un prenne la peine de les compiler et de les lire toutes, ce qui, à mon avis, ne se produira certainement pas. Hein. Et enfin, oui, je reviens sur le communiqué de presse du SNES-FSU, c'est notre grande crainte. Hein. En gros, on a quand même un ministre qui faut quand même pas oublier, est un juriste, juriste qui a pondu lorsqu'il était directeur général de l'enseignement scolaire l'arrêté relatif au cahier de texte numérique, qui était quelque chose de complètement lamentable en termes de rédaction. En gros, il s'agit de faire en sorte que l'éducation nationale coûte moins cher, et donc le seul moyen, c'est d'externaliser un certain nombre de services. Et pas uniquement les services administratifs, etc., etc., mais finalement, de faire en sorte que qu'un enseignant soit de moins en moins concepteur de son métier. Et là, on est en contradiction totale avec les principes du logiciel libre.
Et on est en contradiction totale avec, ce que revendiquent beaucoup de syndicats, à savoir faire confiance aux équipes, aux salariés, aux travailleurs, pour s'organiser sur leur lieu de travail, différents bassins, on va dire, de vie et de travail, pour maîtriser, pour être maître leur activité professionnelle. Par rapport aux états généraux du numérique, le SGEN-CFDT s'y prépare. On n'a pas trop d'illusions, mais toutes les occasions sont bonnes à prendre pour faire avancer la cause. Donc, nous participerons, les syndicats dans les régions, les syndicats SGEN dans les différentes académies pourront participer, et on essaiera de tout notre poids de faire avancer les choses dans la bonne direction.
Juste une question par rapport à ce que tu évoquais. Est-ce que les syndicats ont été sollicités en tant que structure spécifique par le gouvernement? Elles vont se saisir des outils proposés pour le faire?
Alors, dans les consultations en région, il y aura la possibilité pour les organismes comme les syndicats de faire valoir leur position et leurs propositions.
D'accord. Jean-François Clerc, tu souhaitais ajouter quelque chose, je crois.
Oui, ce que je voulais dire, c'est, entre autres, on n'a pas été sollicité directement, c'est-à-dire que on fait partie de toutes ces choses, ces organismes, ces sociétés, ces groupements de personnes, etc., etc., qui peuvent intervenir, c'est-à-dire que quelque part, ça fait partie de la démocratie, de la liberté d'expression, mais on n'a pas été associé particulièrement à quoi que ce soit, alors que le syndicat des personnels, ça aurait peut-être été intéressant qu'il soit un petit peu plus associé et pas mis au même niveau, par exemple, que la petite EdTech qui va proposer une espèce de moteur d'intelligence artificielle pour décrypter des QCM, ou bien la grosse entreprise que peut être la grosse division d'entreprise que pourrait être Microsoft Education. Ceci dit, nous aussi on va y participer, on va apporter nos contributions. Depuis 2016-2017, on produit régulièrement pour nos adhérents des brochures relatives au numérique dans l'éducation nationale. Bon, là, on devait en produire une juste avant le confinement. On n'a pas pu finaliser à ce moment-là. On va la publier là au moment de la rentrée, et puis on va la verser aux contributions pour ce débat. Ceci dit, nous on se prépare aussi du côté cette fois-ci de la FSU. On se dit que ça serait peut-être une bonne idée, alors non pas de faire des contre-journées, mais en tout cas de faire un truc qui soit un peu plus un peu plus en rapport avec les attentes que les personnels pouvaient avoir de ces états généraux.
D'une manière plus large que l'éducation nationale, on voit bien ces dernières années que les syndicats doivent faire face à une conception un peu particulière du dialogue social des deux derniers gouvernements, et en particulier de celui de l'actuel gouvernement. Mais nous, l'intéressant dans la prise de position, la construction d'une position, le recensement des forces, entre guillemets, la mise en place de formations, de partenariats avec des associations comme l'April, parce que nous, les syndicats, nous serons toujours là quand le prochain gouvernement remplacera l'actuel.
Oui. Et c'est sûr que la continuité de cette action, de continuité de cette action-là est très importante. Notre échange, malheureusement, parce qu'on a encore des tas de choses à dire, mais touche à sa fin. Est-ce que, si vous souhaitez, si vous avez une dernière chose à rajouter, voilà, vous avez une minute chacun en matière pour un dernier mot. Sinon, je vous souhaiterais une bonne journée. Un mot de conclusion ou c'est bon pour vous? Renaud.
Alors je vais commencer le mot de conclusion. Le syndicat, c'est vous. C'est-à-dire le syndicat, ben c'est les adhérents, c'est les gens qui se reconnaissent dans les valeurs et qui rejoignent le mouvement, comme l'éducation nationale, c'est les personnels qui la composent. Donc n'hésitez pas à faire réseau, n'hésitez pas à faire entendre votre voix, rejoignez le syndicat qui correspond le mieux à vos idées et ensemble on arrivera peut-être à faire bouger le mammouth.
Jean-François Clerc, un mot de fin ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Renaud vient de dire. J'encouragerais peut-être véritablement les personnels, tous les personnels, à être particulièrement combatifs, c'est-à-dire à ne pas se dire « oui, mais de toute façon, ça n'y change rien ». On a toujours un rôle à jouer, on a un poids qui est quand même toujours extrêmement important. Et la société, c'est quand même nous. C'est pas uniquement les politiques qui sont au gouvernement, parce que comme disait très justement Renaud, ceux qui sont au gouvernement actuellement, ils y seront plus dans un an, dans deux ans, dans trois ans, mais les organisations syndicales, elles existeront encore.
Écoutez, un grand merci à tous les deux d'avoir pris ce temps d'échange. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça l'a été pour vous aussi, puis pour les auditeurs et auditrices. J'ai aussi une bonne fin de journée, puis une très belle rentrée. Combative, aussi combative que nécessaire. Voilà. Et bien écoutez, très bonne journée. Jean-François Clerc, donc du SNES FSU, et Renaud de Colombet, du SGAN CFDT. Merci encore à vous. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée et bonne rentrée à tous et à toutes.
Idem.
Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Nous venons d'entendre un sujet donc enregistré il y a quelques jours, donc consacré au sujet du logiciel libre et des syndicats de l'éducation nationale.